Les neuromythes.
Les neuromythes. Ce que je peux vous apprendre, c'est le mythe que notre cerveau est limité, alors que nous n'en employons que à peu près 10, peut-être 15% pour les plus intelligents d'entre nous.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Plus qu'une émission aujourd'hui, un voyage. Plus qu'un voyage d'ailleurs, une odyssée au cœur de l'organe le plus mystérieux de l'univers, à la fois magnifiquement complexe et dangereusement fragile, le cerveau de Cyril Lacarrière. Un cerveau capable du meilleur, comme lorsqu'après un déjeuner bien arrosé chez Blériot, alors que notre rédac chef se concentre les pieds en l'air sur son bureau, sur son prochain d'où ça sort, et que soudain, entre deux ronflements hippopotamesques, l'idée jaillit dans les tréfonds de son cortex et qu'il se redresse en hurlant « Oh là là ! Coup de génie !» Déclaration qui enflamme toujours l'imagination de Manon et Quentin avant de découvrir à l'antenne le lendemain en quoi consistait le dit coup de génie, généralement soit repomper un vieux d'où ça sort sur un thème voisin,
ça a bien arrivé, ça.
Soit carrément trouver un subterfuge pour ne pas faire de d'où ça sort, comme le légendaire d'où ça sort la flemme où Cyril avait juste dit « de là » avant de se lever et de partir, je le cite, « comme un prince ». Un cerveau qui est donc capable...
C'était un vrai coup de génie, Mathieu.
Oui, c'est vrai, là, l'appellation est juste...
Génie et gênant.
Ouais. Hein, pas très radiophonique, parce qu'on a pas vu partir.
C'était vraiment un moment non radiophonique. Le cerveau qui est donc capable des plus épatantes trouvailles, mais qui connaît parfois de terribles avaries techniques, à se demander même comment un cerveau capable de cibles francs prouesses a pu l'autre jour mettre 3 minutes et 12 secondes à formuler le mot environnementalisme. Une séquence que Cyril a fait effacer des serveurs, mais qui demeurera à jamais dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu, Manon et Quentin, qui ont cru à un AVC, ont été profondément traumatisés. Une chose est sûre, comme tous les cerveaux, celui de Cyril Lacarrière est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.
Oui, Quentin. Il a vraiment fait effacer les
bancs. Ça
n'existe plus ? On ne peut pas avoir accès à ça. Il a tout fait effacer. Et c'est justement pour en savoir plus sur le plus vascularisé de tous nos organes, qui n'est donc pas celui auquel pensait Quentin, que nous avons convié cet après-midi un spécialiste du cerveau qui va nous aider à déconstruire les neuromythes, toutes ces croyances populaires qui font que, par exemple, on croit qu'on utilise 10% de notre cerveau. Ben non, c'est faux, on utilise 100% et pour certains, il faut bien ça. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Albert Moukébert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Albert, vous êtes neuroscientifique et psychologue clinicien et vous êtes aussi un auteur à succès, comme on dit, parce que votre premier livre, Votre cerveau vous joue des tours, a été traduit en 12 langues et adapté en documentaire sur Arte. Vous revenez avec Neuromania, le vrai du faux de votre cerveau. C'est aux éditions Alary. Avec vous, on va donc y voir plus clair sur notre cerveau et surtout écarter les contre-vérités qu'on entend souvent à son sujet. Juste le temps de vous présenter les deux cerveaux de cette émission. 176 de QI à eux deux. Manon, Mariani, Quentin, lui, bonjour.
J'ai les trois quarts, on tient le préciser quand même. Bonjour.
Oui, je prends le dernier quart, c'est pas le problème.
Face à vous, Albert n'est donc que chroniqueur et pas encore producteur associé de cette émission. Il n'a pas pu, comme Cyril, faire effacer des serveurs son AVC à lui le 9 octobre 2023, ce jour funeste où ses neurones ont buté sur les 8 syllabes piégeuses du mot désoccidentalisation.
Et si l'Occident, qui a occidentalisé depuis toujours, tentait de se désoccidentaliser.
C'est vache parce qu'il avait réussi à le dire plein de fois avant ça.
Alors que toi l'autre jour, on va retrouver cet extrait. Non. Quentin, chaque après-midi, une fois bien intégré notre mot du jour, descendez dans la rue pour en discuter avec les passants.
Ça vous passionne le cerveau? Les mythes s'accumulent, s'entretiennent et après tout, qui a raison? La science certes, mais a-t-elle tout trouvé? Vos réponses dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue, Mathieu.
À vos côtés, Albert, elle a trouvé une astuce pour ne jamais buter sur les mots, en inventer de nouveaux. C'est ainsi que jeudi dernier, elle nous a parlé d'un projet complètement buildé, un mot de verlan qui n'avait jamais, été prononcé par personne et qui est donc né littéralement dans sa bouche. C'est sûr, comme ça c'est plus pratique. Oui. Manon, chaque après-midi, vous nous indiquez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
À Paris, on l'entend, on demandera. Un TikToker neuroscientifique qui parle du cerveau à quasiment 1 million d'abonnés, comme quoi c'est un sujet qui passionne.
Vers 16h30, quel volume de votre boîte crânienne occupe vraiment votre cerveau? Combien de neurones perd-on en moyenne chaque jour? Le Zoom Zoom Test fera de vous un incollable du cerveau et vous permettra de rattraper 6 ans d'études en neurologie en seulement 5 minutes, c'est ça aussi, le service public. Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra. Mais d'abord, Albert Moukébert, on en rigole un peu, mais est-ce que les contre-vérités qui circulent sur notre cerveau, ça peut avoir des conséquences dangereuses?
Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, ça peut avoir des conséquences dangereuses pour
plein de raisons. La première, c'est que les croyances qu'on a sur notre fonctionnement et le fonctionnement des autres, c'est ce qu'on appelle des croyances performatives, c'est-à-dire elles impactent notre performance. Si par exemple, je sais pas, je crois que ce verre est fait de verre, mais quelqu'un me dit qu'il est fait de plastique, ça va pas changer grand-chose à ma vie. Mais si je peux vous persuader que vous utilisez que 10% de votre cerveau et que moi, je peux vous aider à en utiliser 15 contre un peu d'argent, là, ça devient un peu plus intéressant. Donc le danger est souvent sur deux registres, soit financier. Je vais vous prendre de l'argent, vous soutirez du temps, vous faire payer. Soit idéologique. Je vais vous persuader que, je sais pas, par exemple, votre champ magnétique cérébral est mal calibré et qu'il vous faut un nettoyage pour recentrer et attirer les bonnes ondes de l'univers. Et donc, vous faire croire, d'un point de vue un peu idéologique, que c'est de votre faute, vos malheurs. Et donc, il faut réinitialiser un peu votre champ magnétique et énergétique cérébral.
On va apprendre à déjouer tous ces pièges avec vous. L'un des plus beaux esprits de son temps, c'est comme ça que le décrit sa mère, Madame Lacarrière. Toujours objectif quand il s'agit de juger son fiston. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors vous qui avez été si généreusement doté par Dame Nature côté cervelle, racontez-nous les neuromythes, d'où ça sort?
Eh bien, c'est un neurochirurgien américain que nous devons notre émission du jour, Alan Crockard. Au début des années 80...
Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés, Stan Smith sur pied. Le regard froid, il scrutait la salle, le froid quand cul roulait autour du bras.
Alors je ne sais pas si Alan Crockard avait des Ray-Ban sur la tête ni un survêtement taquini, mais
pense pas.
Il s'y connaissait en cerveau et il avait un hobby, débunker les idées fausses qui circulaient à ce sujet. Je vois dans les yeux de Manon l'incompréhension de ce qui s'est passé.
C'est une musique qu'on écoutait à une autre époque que les moins de 20 ans.
Mais je la connais, mais j'ai pas compris la vanne de Cyril.
Bon, au bref, début des années 80.
Ouais, À l'époque.
À l'époque, personne n'utilisait le terme débunker, qu'on peut traduire par démystifier ou déconstruire aujourd'hui, mais c'est pareil, Alan Crockard luttait déjà contre les fake news. Et alors, qu'est-ce que c'était qu'un neuromythe? De fausses croyances concernant les capacités de notre cerveau qui se sont répandues sous forme de raccourcis séduisants, mais sont le plus souvent des récits très approximatifs qui peuvent avoir des impacts sur la société. Un exemple.
On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant.
Lucie, le film de Luc Besson, succès mondial. On utiliserait seulement 10% des capacités de notre cerveau. On a commencé à en parler, vrai ou faux? Eh bien oui, non, ce n'est pas vrai. Voilà le prototype même du neuromythe. On utilise la totalité des capacités de notre cerveau. Reste ensuite à savoir si on a toutes et tous le même cerveau. Et là, c'est moins sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on propage des fausses informations concernant notre cerveau? Est-ce qu'il y a un business derrière tout ça? Est-ce que notre cerveau peut être amélioré? Est-ce qu'on en sait vraiment tout? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Albert Mokébert, ce neuromythe, je dirais que c'est la matrice de tous les neuromythes sur les 10% du cerveau qu'on utiliserait seulement. Ça vous énerve, non, j'imagine?
Ça m'énerve parce que, en fait, il y a des neuromythes qui sont des sortes de sursimplifications. On prend quelque chose qui a un fond de vérité, on le banalise, ça devient comme un mensonge, mais quelque part, ça pose des ventes. Il y a des neuromythes qui partent vraiment de rien. Et ça part vraiment de rien. En fait, j'ai essayé de retrouver la source. Ouais. Pas vraiment trouvé, mais apparemment, de ce que j'ai trouvé, c'est un journaliste qui interviewe un chirurgien ou un neurologue. Et le neurologue lui dit, en fait, on a compris 10% du cerveau. Et lui, il est parti sur on utilise 10% de notre cerveau.
Allez, journaliste, toujours cette imprécision.
Et c'est parti, et donc c'est devenu Lucie, c'est devenu Limitless, c'est devenu un business sans fin. Aujourd'hui, on assiste à une explosion de ce qu'on appelle les nootropes. C'est des sortes de substances qu'on peut prendre pour améliorer les capacités. Le nootrope le plus utilisé, vous en avez sûrement aujourd'hui tous pris ici, c'est le café. Mais aujourd'hui, on a, je ne sais pas, le lion's mane, le cordyceps, des champignons, parfois des médicaments, etc.
Arrêtons-nous là-dessus, parce que nous, on ne sait pas ce qui marche, qui marche pas, ce qui est vrai ou pas. C'est-à-dire, sur ces produits dont vous parlez, par exemple, le café, est-ce qu'il est vrai que le café améliore, je ne sais pas dans quelle manière ou dans quelle proportion, les capacités cérébrales, ou ça aussi, c'est un neuromythe?
Alors, c'est pas... ça améliore pas les capacités. Par exemple, le café, ça peut éliminer des obstacles, comme par exemple la fatigue. Donc, on n'est plus réveillé. Donc en fait, il y a nos capacités et il y a ce qu'on appelle l'accès à nos capacités. C'est pas la même chose. Par exemple, je sais pas, imaginez deux sportifs de haut niveau, ils vont s'affronter à un match, ils ont des capacités relativement similaires. Ce qui va jouer dans le match, c'est qui a un meilleur accès à cette capacité. Un étudiant peut faire chez lui ses exercices du soir, il va les réussir, il va à l'examen, il a un trou de mémoire, il a les capacités. Il n'a pas accès à ses capacités. Donc, certaines de ces substances peuvent aider à pouvoir mieux mobiliser c'est sur commande des capacités qu'on a déjà. Donc si vous avez, vous n'avez pas bu de café, vous allez peut-être être un peu plus endormi, donc vous pouvez moins bien mobiliser vos compétences. Vous prenez votre café, c'est un excitant, et là, boum, vous avez... Mais c'est pas genre, vous connaissez pas quelque chose, vous buvez du café, boum, je connais le kung-fu, quoi. C'est
pas... Ah, ça serait bien,
ça c'est dégueulasse. Ouais.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Les mythes véhiculent parfois de fausses idées, surtout les neuromythes. Zoom cet après-midi sur les vraies facultés de nos cerveaux avec le neuroscientifique Albert Moukébert, auteur de Neuromania, le vrai du faux de notre cerveau, qui est paru chez Alary Édition. Albert, votre confrère neuroscientifique Christophe Rodeau dit qu'un neuromythe, c'est un peu comme l'horoscope finalement. Il faut que ce soit flou pour que chacun puisse y trouver son interprétation. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, absolument. Il faut que ça soit flou et surtout, il faut que ça soit sur un sujet sur lequel on n'a pas vraiment compris comment ça marche.
Comme ça, on est sûr de pouvoir dire n'importe quoi.
Oui, parce que c'est en fait le manque de connaissances solides qui va permettre d'inventer un peu des histoires sur tout et n'importe quoi. Et ça, ça s'applique pas juste au cerveau. C'est, ça s'applique un peu à tout, à la génétique, à la physique quantique, à toutes les sciences qui ne sont pas encore très bien stabilisées, on dit. Y a des gens qui vont essayer de s'immiscer dans le trou.
Dans votre livre, vous dites aussi que vous pointez du doigt, en tout cas, l'utilisation dans le monde de l'entreprise de ces fausses connaissances sur le cerveau. Qu'est-ce qu'elles font les entreprises avec ça ?
Par exemple, on va faire des tests de pour les salariés, pour savoir s'ils sont plutôt cerveau gauche ou cerveau droit.
Ça, c'est complètement idiot.
Oui, c'est un peu... Ou bien même des tests de personnalité, vous êtes plutôt vert ou jaune ou tout ces choses. C'est un peu des horoscopes pour les gens qui se disent « on n'est pas assez con pour croire aux horoscopes ».
Ah oui, d'accord, c'est juste un peu pour CSP+, qui voudrait un truc un peu plus sérieux, soi-disant, avec une patine scientifique.
Et surtout, ça permet d'évacuer tous les déterminants, on va dire, plus contextuels qui impactent la personne. C'est-à-dire, si moi, je peux vous persuader que votre performance, c'est à cause de votre personnalité, j'ai plus à me prendre la tête avec si vous entendez bien dans l'équipe, bien votre salaire, combien d'heures je vous fais bosser.
C'est juste vous, c'est votre personnalité.
C'est juste vous, c'est votre personnalité, votre cerveau gauche, votre cerveau droit, votre neuroplasticité, etc.
Mais il y a des médecins ou des neuroscientifiques qui partagent aussi ces neuromythes et qui aident du coup à la propagation, à leur propagation.
Alors, il y a toujours des personnes qui vont partager, de la même manière qu'on a des prix Nobel qui disent que le réchauffement climatique n'existe pas, etc. C'est-à-dire, au final, les chercheurs, ils sont aussi humains. Si moi, je ne sais pas, demain, on vient et on me dit « Écoute, Albert, on a une idée d'une start-up, d'utiliser des casques EG pour persuader les gens qui vont devenir meilleurs en créativité et on a levé 5 millions d'euros. »
Vous n'allez pas dire non, Albert.
Je vais y penser. Je dois dire non parce que j'ai écrit Neuromania.
Mais oui, non.
Si je n'avais pas écrit Neuromania, si je n'avais pas un super éditeur et tout, je vais me dire, levé de fonds de 5 millions pour faire des casques EG et après dire oui, pourquoi pas. Et on l'a vu, il y a eu des casques pour améliorer le sommeil, des casques EG, etc. Mais tout ça, au final, ça disparaît parce que le réel les rattrape et ça ne marche pas.
Quentin ? Est-ce que ce n'est pas l'évolution de l'humanité et du cerveau qui fait qu'on peut croire à tout ça? Aujourd'hui, on arrive à un tel niveau de performance, on a créé des ordinateurs, on a créé des machines, on se dit par rapport au Moyen-Âge, il y a eu une évolution, on a développé notre cerveau. Est-ce que c'est pas ça l'histoire des 10% pas exploités? On pense que plus tard, on peut aller plus loin?
Alors ça, c'est quelque chose, en fait, c'est même pas quelque chose de récent, c'est-à-dire nos intuitions sur notre fonctionnement, peut-être pas le cerveau, mais la psychologie, remontent à depuis toujours. Un des premiers récits de l'histoire, c'est le mythe de Gilgamesh, l'histoire, l'épopée de Gilgamesh, qui essayait de devenir immortel. C'est-à-dire, depuis toujours, on essaye de soit décupler nos compétences intellectuelles, soit de nous rendre immortels biologiquement. C'est vraiment les deux mythes que l'humanité poursuit depuis toujours. Et le cerveau a toujours été comparé à la technologie la plus développée d'une époque. C'est-à-dire, par exemple, à l'Antiquité, on considérait que le cerveau fonctionne sur des principes hydrauliques, au XVIIe siècle, sur des principes mécaniques, au XIXe siècle, avec l'électricité, au XXe siècle, comme un ordinateur, et aujourd'hui, on dit le cerveau, c'est comme l'intelligence artificielle.
Ouais, on a toujours comparé, finalement.
La plus haute technologie d'une époque, le cerveau va être comparé à cette plus haute technologie quasiment à chaque fois.
Il y a aussi une responsabilité, même si je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais une responsabilité des journalistes, j'ai l'impression, qui vulgarisent, en voulant vulgariser des avancées scientifiques qui ne sont pas encore très sûres, tendent à répandre dans l'opinion publique des choses qui sont loin
d'être assurées. Oui, par exemple, un article aujourd'hui j'ai vu sur un site de psychologie, je peux le nommer, je m'en fous, ils disent qu'à faire un meilleur boulot, cerveau et psycho, ils disent on a trouvé l'aire du cerveau responsable des échecs. je me dis, genre, c'est bizarre ce truc. Donc je vais voir sur leur site, l'article est payant, mais coup de chance, c'est une traduction d'un article anglais qui lui est en libre accès. Je vais voir l'article en libre accès, et le pire, c'est que le sujet est hyper intéressant, mais il est simplifié, on perd ce qui le rend intéressant. C'est en fait une personne qui a un cancer du cerveau, à qui on a fait une opération ouverte, la personne joue aux échecs, elle a envie, donc c'est un glioblastome, il faut enlever une partie du cerveau pour enlever la tumeur. Et la personne dit, j'aime beaucoup jouer aux échecs, est-ce que c'est possible de ne pas altérer mes capacités à jouer aux échecs? Ils n'ont pas du tout trouvé l'air responsable des échecs. Ils lui ont fait une opération pendant qu'il était réveillé. Ouais. Et donc, il stimulait des zones du cerveau. Et quand il n'arrivait plus à jouer aux échecs, il disait, OK, on ne touche pas à cette partie. Et donc, ils ont juste fait l'opération autour d'une zone qui était responsable dans certaines compétences impliquées dans les échecs. Et ça, c'est devenu, sur cerveau et psycho, on a trouvé l'air du cerveau responsable des échecs.
Le génie, les amis, comme la foudre, ne frappe jamais deux fois au même endroit. En 2004, Mark Zuckerberg inventait Facebook. En 2007, Steve Jobs inventait l'iPhone. En 2023, Quentin inventait la tasse Lucy Gallou.
Oh,
oui, oui, parfois la foudre ne frappe jamais. Ouais. Mais ça n'a pas empêché.
Qui va sur Facebook aujourd'hui?
C'est plus personne finalement, plus personne. Bon, il a aussi Instagram. Okay. Ça n'a pas empêché Quentin de devenir une référence mondiale du micro-trottoir. Ça, c'est important.
Ah oui, c'est en tout. Ah oui, très bien, c'est gentil.
Vous êtes une référence mondiale, Quentin.
Bah, c'est ce que vous me dites.
Essayez d'assumer ce statut.
Allez, on va vérifier. Je traîne dans la rue, non loin du Jamel Comedy Club à Paris, où je dois aller voir Marie de Breuer sur scène. C'est ici que je rencontre ces deux-là qui parlent de tessiture, baryton, ténor, alto. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms?
Carlo.
Oh. Lison.
Ah, vous êtes chanteur?
Ah, à nos heures. À nos heures, pas perdu d'ailleurs.
Vous pouvez pas me faire un truc à deux voix là?
L'altra mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao.
Ça chante la révolution. Lison me confie qu'elle adore France Inter. Tout ça est cohérent finalement. Lisez-moi ceci.
Les neuromythes.
Les neuromythes. Ce que je peux vous apprendre, c'est le mythe que notre cerveau est limité, alors que nous n'en employons que à peu près 10, peut-être 15% pour les plus intelligents d'entre nous.
Ça, c'est un mythe.
Ah, c'est ça, les neuromythes. Cela dit, moi, je peux vous présenter des gens, ils en utilisent même pas 5%.
Ça, on va pas faire de liste, évidemment. Je note que Carlos est curieux du sujet.
Par exemple, est-ce que la psilocybine dans les hallucinogènes, dans les champignons hallucinogènes, etc. Est-ce qu'elle est vraiment capable de débloquer d'autres parcours neuronaux dans notre cerveau?
Bien sûr.
Ou est-ce que c'est un mythe?
Le LSD employé à très petite dose et intelligemment sur certains cas de Parkinson, sclérose, etc. Et Baudelaire, alors il prenait bien de l'opium. Non, bah alors heureusement. Qu'aurait fait Baudelaire sans opium? Vous pouvez me le dire?
Ah,
et Françoise Sagan, qu'est-ce qu'elle aurait écrit sans injecter de l'héroïne dans les veines?
Oula, vous n'allez pas. Est-ce un mythe de croire à la stimulation créative du cerveau par la drogue? C'est en tout cas la première question qui arrive quand j'en parle dans la rue. Vive la France. Ces deux-là marchent côte à côte, bonnet, écharpe, petites lunettes.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Clara.
Cyprien.
Vous avez quel âge?
24. Je suis en marketing digital.
Et moi, je suis en études pour être développeur.
Quand je leur parle des neuromythes, Clara se souvient...
Moi, je sais que ce qui est fou, c'est qu'il y a de l'électricité dans le cerveau et que du coup, ça, avec les histoires de dopamine et tout, je trouvais ça ouf. Les synapses, comment ça envoie l'électricité pour envoyer les informations. Mais ça, c'est parce que je l'avais vu en SVT, par contre. Mais c'est pour ça que je trouvais ça fou que ça soit de l'électricité dans le cerveau. Je m'étais dit, mais attends, on crée de l'électricité? On est des batteries, comme les voitures. On arrive à créer notre propre électricité. Et c'était fou parce que... On voyait des images de deux synapses et ça se touche pas en fait. Et l'électricité s'envoie sans contact en fait. C'est fou.
Alors, sommes-nous des générateurs en puissance? Parfois, je vois un peu de fumée sortir des oreilles de Mathieu Noël. C'est là que je sais que le Zoom Zoom Test sera à la fois hilarant et instructif.
Vous démarrerez avec un point.
Elle marche.
Le bonus.
Les mains dans son manteau beige. Elle retire un écouteur. Comment s'appelle-t-elle?
Agathe.
Agathe, vous avez quel âge?
26 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous?
Je suis au chômage, voilà. Mais je suis au service dans une communauté religieuse en attendant.
Elle me raconte cette communauté et ses frères chrétiens. Je lui fais lire notre mot du jour dans Zoom Zoom Zen.
Les neuromythes.
C'est ce qu'on s'imagine de notre cerveau.
Ah, alors moi, on m'a toujours enseigné qu'effectivement, en fonction des personnes, on était plus cerveau gauche ou cerveau droit. Si par exemple... on étudiait plus les mathématiques ou les sciences, on était plus cerveau gauche et on faisait plus travailler notre cerveau gauche, alors que quand on est littéraire, on fait davantage travailler notre cerveau droit. C'est un mythe. D'accord, donc c'était une fausse croyance depuis le début.
Voilà.
Bah écoutez, je vais creuser la question.
Vous allez pouvoir lancer le débat avec les frères chrétiens.
Tout à fait, je leur en parlerai ce soir à table.
Ça va bien se marrer dans le presbytère, c'est moi qui vous le dis et je compte sur le frère Courade pour nous donner les conclusions de ces échanges sur la question.
Il sera là.
Tiané a la vingtaine, elle écoute mes échanges et je lui raconte tout ce que l'on peut croire sur notre cerveau qui est en fait complètement faux.
Ouais, mais après, je pense quand même que... Enfin, je dirais quand même qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'il y a aussi une forme d'humilité de se dire, bah, en fait, il y a plein de choses dans le cerveau qu'on... Enfin, on fait encore des recherches dessus. Mais ouais, je pense peut-être qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et c'est cool aussi.
Et rester humble face à la complexité de cet organe. Dernière rencontre, Pierre, qui passe devant moi, pantalon serré, petites chaussures nickel. Il me donne son avis sur ces fantasmes qui gravitent autour de notre cerveau.
C'est conditionné par le fait qu'on ne peut pas y accéder comparé à nos muscles et que voilà, il faut ouvrir la tête de quelqu'un pour voir ce qui se passe dans son cerveau. Il faut attendre la mort de quelqu'un pour pouvoir faire des études sur son cerveau. Donc moi je dirais c'est pourquoi le cerveau fascine, c'est parce qu'il est invisible, il est intangible, littéralement. Et parce que aussi, forcément, il conditionne tellement notre manière de parler, de voir, de nos rapports au sens et nos rapports au monde.
Alors, est-ce que Pierre a raison? Le fait qu'on ne puisse pas accéder à notre cerveau renforce les croyances imaginaires? Ou alors, l'homme fantasme-t-il, tout simplement l'outil qui aurait fait de lui le maître du monde, celui qu'il différencie de l'animal? J'avoue que j'ai pas envie de m'ouvrir la boîte crânienne pour voir et vérifier. On va rester là-dessus, c'est pas plus mal.
Merci Quentin. Albert Moukébert est toujours avec nous, l'auteur, je le rappelle, de Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, paru aux éditions Alary. Est-ce que c'est, justement, je rebondis sur le dernier témoignage, la complexité même et l'inaccessibilité, si j'ose dire, du cerveau, qui fait qu'on fantasme tant de choses à son sujet?
Alors c'est une des raisons, dans le sens où effectivement un cerveau mort ne nous apprend pas grand-chose. Alors que si je fais une dissection, je vais pouvoir, par exemple, déduire que les os servent à la structure, l'intégrité structurelle du corps, je vais peut-être comprendre les ligaments, je vais peut-être trouver de la nourriture dans l'estomac et me dire donc quand j'avale dans ma bouche. Alors qu'un cerveau mort, ça ne nous dit pas grand-chose. Deux, effectivement, ça fonctionne sur le principe de l'électricité et de la chimie. Donc avant la découverte de l'électricité, on ne peut pas étudier vraiment le cerveau. Trois, pour étudier un cerveau sain, on ne peut pas l'ouvrir, parce que si on ouvre et on regarde, on ne voit rien. Donc il faut attendre des progrès technologiques pour pouvoir mesurer l'activité cérébrale de manière non invasive. Et donc effectivement, et en plus de ça, c'est vraiment complexe, toutes ces raisons font que c'est un organe qu'on a beaucoup plus de mal à percer le fonctionnement que d'autres de nos facultés.
Je vous ai vu réagir sur Carlo qui nous parle de la psilocybine.
Ouais.
Pourquoi ça vous a fait réagir à ce point-là?
Parce que j'ai vu récemment une amie que vous avez invitée, Lucie Berkovitch, qui fait le protocole psilocybine et dépression à l'hôpital Saint-Anne. Mmh.
Et on peut dire que, parce qu'on démêle le vrai du faux, ça c'est quelque chose, c'est une molécule, c'est quoi la...
C'est la psilocybine, c'est le principe actif des champignons hallucinogènes.
Et ça,
c'est ce qu'il y a dans les champignons hallucinogènes.
Ça a bel et bien un impact pour le coup sur...
Ah oui, c'est des substances psychoactives, bien sûr, ça a un impact, le LSD aussi, toutes les substances psychoactives, et effectivement on est en train d'explorer si ces substances... peuvent avoir des effets bénéfiques et thérapeutiques, parce qu'on a arrêté de les étudier pour une raison valable, en fait, pour des raisons purement politiques et idéologiques, qui n'ont rien à voir avec notre biologie.
Une jeune femme parlait du neuromythe, qu'on utilise notre cerveau droit, plus littéraire, cerveau gauche, plus maths, mais du coup, est-ce qu'on est tous égaux du cerveau?
Non, on n'est pas du tout égaux, pas plus qu'on fait tous la même taille, ou qu'on est égaux dans notre capacité à porter ou à courir vite. Mais on est tous moyens, dans le sens où nos compétences suivent ce qu'on appelle une distribution normale, c'est-à-dire la majorité d'entre nous ont des compétences relativement moyennes et similaires, de la même manière que la majorité d'entre nous, on est, je ne sais pas, entre 1m65 et 1m85. Il y a des gens qui font 2m20, il y a des gens qui font 1m40, mais c'est des exceptions. C'est pas la même chose pour notre cerveau, on est tous relativement moyens en maths, en matière littéraire, etc.
Je précise que Quentin ne fait pas 1m40, mais 1m70. Soyez quand même gentil avec lui, Albert. Ne soyez pas comme ça. Mais 10 ans.
De quoi... on est les deux opposés, finalement.
Oui, peut-être.
Combien?
Oui, moi, je suis 1m90.
OK.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Le cerveau est une machine prodigieuse, mais c'est comme une voiture. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle roule souvent. Or, pour Manon et Quentin, le seul moment de la journée où leurs neurones sont mis à contribution, c'est le zoom zoom test. C'est pas assez, mais c'est déjà ça. On passe au quiz.
Évidemment.
Et pour comprendre comment ces quelques centimètres cubes de flambie ont pu accoucher d'inventions aussi prodigieuses que le plafond de la chapelle Sixtine, l'ordinateur ou, plus proche de nous, le doux assort, ce zoom zoom test sera dédié aux vraies capacités du cerveau, aux antipodes, donc, des neuromythes. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2024. Cyril vient enfin de réussir à prononcer le mot environnementalisme. Après 3 minutes et 12 secondes d'angoisse pour les autres personnes présentes dans le studio, 3 minutes et 12 secondes de lutte acharnée entre son cerveau et ses lèvres. Mais heureusement, la 14e tentative fut la bonne et Cyril put terminer son doux assort sous les applaudissements d'un invité qui s'apprêtait à composer le 15. Et justement, suite à cet événement, la direction d'Inter a imposé un petit check-up à notre rédacteur en chef, qui fêtera, vous le savez, bientôt ses 50 ans. Il a donc passé hier un IRM qui a stupéfait le neurochirurgien. D'après vous, que révèle l'examen? que son cerveau fait la taille d'une mandarine, que son cerveau est constitué à 50% de burrata, ou que son cerveau n'occupe que 10% de sa boîte crânienne.
C'est...
Ah bah non, c'est d'ailleurs A et C.
C'est une bonne réponse de Manon Marraine.
Yes.
L'IRM est formel, le cerveau n'occupe que 10% de la boîte crânienne, tout le reste étant de la flotte, plus spécifiquement appelée par ceux qui ont fait des études, liquide céphalo-rachidien. Pas d'inquiétude pour autant, le neurologue a vite rassuré Cyril, on vit très bien avec un crâne plein de flotte. En 2007, un Marseillais de 44 ans a passé un IRM et on a découvert que 90% de sa boîte crânienne était remplie de liquide rachidien, ne laissant que tout petit espace finalement au cerveau en lui-même. Et avec 90% de neurones en moins, il menait ma foi une vie tout à fait normale, de fonctionnaire, père de deux enfants, avec un QI de 75 certes, mais il était heureux. Autre bonne nouvelle, c'est une vraie histoire. Hein.
Oui, c'est un cas hyper connu dans la littérature.
Ah, autre bonne nouvelle, Manon, Quentin, parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ? Votre cerveau ne représente que 2% de votre poids. Votre cerveau perd 85 000 neurones par jour. Ou votre cerveau émet autant de CO2 qu'une Dacia Sandero.
Les trois.
A et B peut-être.
A et B. Ouais,
A et B, c'est une bonne réponse de Quentin. Effectivement, des chiffres bien inquiétants, mais totalement normaux. Hein, oui, le cerveau ne représente que 2% du poids total de l'être humain, mais par le rôle central qu'il occupe, il consomme 20% de l'énergie au quotidien. Et oui, on perd en moyenne 85 000 neurones par jour, un chiffre qui peut monter à 150 000 si on regarde Hanouna. Mais comme on a entre 86 et 100 milliards de neurones, on a un peu de marge, se dit Quentin, quand il décide de se détendre en regardant face à Baba. Mais attention, âme sensible, la question suivante risque de vous déstabiliser. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cette vidéo d'une femme qui joue du violon alors que le chirurgien lui retire une tumeur cérébrale. D'après vous, Manon Quentin, cette vidéo est complètement truquée. On ne peut pas jouer du violon pendant que quelqu'un trifouille dans votre crâne. En partie truquée, car en fait, elle joue pas si bien qu'on entend sur la vidéo. Ou totalement vrai, puisque les opérations du cerveau sont indolores.
C'est...
B. Est-ce que ça aurait pas été trafiqué sur la vidéo pour que ça rentre bien parce qu'il n'y a pas une bonne prise de son avec le violon?
On est sur un coup sur le cerveau, le mec il est là avec son oreille absolue. Moi je pense que c'est une question de mise en onde
et c'est certainement
le son. Bonne réponse de Manon, évidemment, évidemment, Albert le savait. Oui, comme se le disait Pierre Courade lors de sa dernière soirée Chemsex avec Jean Massier, le corps humain est décidément incroyable. Aussi fou que ça puisse paraître. Aussi fou que ça puisse paraître, les opérations du cerveau sont indolores. Être réveillé pendant qu'on vous opère d'une tumeur est donc fréquent. Souvent, les opérations portant sur des zones fonctionnelles du cerveau, zones responsables du mouvement, de la parole ou de la vision, nécessitent d'ailleurs que le patient soit placé sous anesthésie générale, puis réveillé, afin que ses fonctions soient évaluées au cours de l'intervention. L'intervention proprement dite ne provoque aucune douleur, car le cerveau ne possède pas de nocicepteurs, les récepteurs de la douleur. Attention quand même pour toute la partie décalotage du crâne à la scie circulaire. Là, un bon chirurgien recommandera quand même vivement une anesthésie générale. Enfin, pour conclure ce quiz sur les propriétés fascinantes du cerveau, direction le Vietnam. J'ai tant de beaux souvenirs là-bas quand je servais dans la Navy, nous disait Cyril hors antenne, en nous montrant un petit carnet qu'il s'était confectionné en peau de Viet Cong. Une guerre atroce, c'est vrai. Les Vietnamiens pensaient qu'ils ne verraient plus jamais une telle horreur. C'était sans compter l'anecdote suivante. Si vous êtes en train de prendre votre goûter, arrêtez tout. En effet, en novembre 2023, un Vietnamien de 35 ans finit par se rendre aux urgences, car depuis 5 mois maintenant, il a d'affreux maux de tête. Son nez le démange de plus en plus, si bien qu'un soir, en explorant ses narines à la pince à épiler, il en sort quelque chose d'inhabituel. Inhabituel, suivi d'un écoulement de liquide un peu dégueulasse, disons les choses. D'après vous, Manon Quentin, que révélera le scanner ? Qu'il avait tellement sniffé de colle qu'il en avait l'équivalent d'un tube entier dans le cerveau. Qu'il n'avait pas bien compris le mode d'emploi des suppositoires à l'eucalyptus.
Oh non.
Ou qu'il avait des baguettes pour manger, enfoncées dans le crâne.
C'est les baguettes.
Ouais, une baguette. Manon, il y avait des baguettes dans son crâne, après des baguettes.
Il serait mort.
Mais Manon, mais qu'est-ce que...
Bah, je sais pas, il a fait le jeu, il a mis des baguettes dans le...
Quel jeu ? C'est quoi ce jeu ?
Je sais pas.
Pour l'amour de Dieu, réfléchissez avant de répondre. C'est la bonne réponse, mais bien sûr, c'est la réponse. C'est bon appétit. Vous vous demandez certainement comment des baguettes ont pu se retrouver à l'intérieur d'un crâne. Eh bien, après réflexion, le mec, il avait tout oublié. Mais le patient pense que les baguettes ont été introduites lors d'une bagarre, alors qu'il était bourré. Les médecins ont évidemment retiré les bouts de baguettes, et il était moins une, puisque l'homme avait une fistule cérébrale et un pneumothorax intracrânien. Je sais pas ce que c'est, mais intuitivement, je sens que c'est pas bon. En tout cas, voyez Manon, c'est très dangereux d'être ivre, surtout si vous traînez dans le 13e arrondissement. Victoire de Manon Mariani.
Mais
bravo.
Vous parliez d'un jeu où on se met des baguettes
mais
dans
non,
les...
mais tu sais où tu veux faire un éléphant, tu mets des baguettes.
On va
jamais joué.
Non, je joue pas au jeu de l'éléphant.
Mais là, vous avez quoi ?
Un clou. Un mec s'était pris un clou.
C'est dans
une bagarre aussi ?
Dans un chantier.
Ah, dans un chantier.
Et il avait mal à la dent pendant plusieurs jours. Et son clou, il était jusque-là, il y a la photo.
Oh, Enfin, jusque-là, du coup, quasiment.
Non, regarde, je suis scotché. Bah, si vous nous suivez en vidéo, vous pouvez le voir, quoique il faudrait zoomer beaucoup.
Oui.
Le mieux, c'est d'acheter Neuromania, voilà, le vrai du faux, sur votre cerveau. Quentin, vous l'avez gagné.
Merci beaucoup.
Vous l'avez gagné, il est pour
moi. J'ai gagné le quiz, mais.
Ah non, pardon, non, vous le rendez tout de suite, j'ai confondu. Mon cerveau est attaqué.
Merci.
C'est Manon qui a remporté le quiz. Les mythes autour de notre cerveau sont nombreux, vous l'avez compris. Voilà pourquoi Albert Moukébert publie Neuromania, le vrai du faux, sur notre cerveau chez Alary Édition. On en a déjà énuméré quelques-uns. On va faire un tour rapide des autres neuromythes. Par exemple, quand on dit qu'on a une mémoire visuelle, orale, sensorielle, tout ça, c'est du flan aussi ou c'est scientifiquement prouvé ?
Non, c'est du flan. C'est plus autour de l'apprentissage qu'on peut mieux apprendre visuellement, auditivement.
En fait,
ça dépend beaucoup de ce qu'on apprend. Si vous essayez d'apprendre, je sais pas, une chanson kinesthésiquement, en touchant les paroles, vous n'allez rien apprendre. Et si vous essayez d'apprendre visuellement... je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ne pas apprendre visuellement. Et visuellement, une chanson, vous allez avoir beaucoup de mal aussi. En fait, ça dépend de la tâche. On n'a pas de préférence, il n'y a pas des styles d'apprentissage. Évidemment, certaines personnes qui ont un sens de la vision, je ne sais pas, qui peuvent discerner mieux les couleurs, etc. Mais ça n'impacte pas les styles d'apprentissage. C'est-à-dire que des profs se disent, moi, je vais adapter mon apprentissage à ce groupe d'élèves qui sont plus kinesthésiques, eux sont plus auditifs, ça n'existe pas. Là.
Vous faites le lien avec l'effet nocebo, l'inverse de l'effet placebo. C'est quoi l'effet nocebo, pardon ?
L'effet placebo, c'est, je vous donne un sucre, je vous dis, c'est un médicament, vous allez mieux. L'effet nocebo, c'est l'inverse. Imaginez ici, on a tous bu de l'eau et quelqu'un maintenant rentre et dit merde, il y avait un laxatif dans notre eau.
Ouais. Bah, on va marche aussi bien que l'effet placebo, on va tous aller aux toilettes.
On va tous avoir mal au ventre. Est-ce qu'on va aller aux toilettes ? Ça peut aller jusque-là.
Ça va, Quentin ?
Oui, mais moi j'ai bu que de l'eau pour le coup. Vous parlez d'un autre phénomène dans votre livre, c'est celui qui consiste à avoir mal à un membre qui n'existe plus.
Oui, les douleurs fantômes.
Par exemple, avoir mal à une main pourtant amputée. Ça, c'est prouvé.
Ah, ça, c'est fou.
Oui, les douleurs fantômes. En fait, parce que notre douleur, elle est dans le lieu, dans notre main, donc si c'est une main, mais aussi il y a les récepteurs. Les centres de traitement de la douleur, les réseaux de traitement de la douleur dans le cerveau. Et si j'ai ma main qui est amputée, mon cerveau, lui, il n'a pas été touché. Donc il suffit juste que dans la restructuration cérébrale, ces aires soient stimulées pour que j'ai mal à la main qui n'est plus là. On appelle ça des douleurs des membres fantômes.
On entend souvent parler du cerveau reptilien. Qu'est-ce que c'est ?
Ça n'existe pas. pour faire simple.
Vous détruisez tout.
Voilà, ça n'existe pas, mais qu'est-ce que c'est ?
En fait, c'est une théorie qui a été développée par un monsieur qui s'appelle MacLean et qui a dit que notre cerveau s'est construit un peu en strates géologiques, qu'on a un cerveau plus ancien, puis plus nouveau, plus nouveau, pour finir avec le néocortex un peu néo-mammalien. Et que, par exemple, notre cerveau reptilien serait le centre un peu de nos pulsions animales, l'instinct, les émotions basses, puis notre cerveau mammalien et puis notre cerveau néo-mammalien pour notre faculté. Ça a été abandonné très très vite. Ça a été proposé dans les années 80-90, ça a été abandonné juste derrière, mais ça a fait son chemin chez le grand public et ça persiste encore aujourd'hui.
La bosse des maths, ça existe ou pas ?
La bosse des maths, ça n'existe plus, ça, depuis longtemps. C'est plus de la phrénologie, c'est ce qu'on appelle la craniologie aussi. C'est quand on essayait de détecter les facultés des gens à partir de la forme de leur crâne.
Ah oui.
Et c'était hyper répandu au 19e siècle. La reine Victoria, par exemple, ramenait des phrénologues étudier les crânes de leurs enfants pour voir s'ils vont être de bons rois et reines. Tout ça.
Ça a eu des conséquences catastrophiques. Vous pouvez nous expliquer.
Ça a eu des conséquences catastrophiques parce qu'on a essayé aussi d'utiliser ça pour hiérarchiser les races, pour dire genre les noirs ont une forme de crâne plus proche des animaux, les blancs sont supérieurs.
Ça a duré longtemps ça ?
Ça n'a jamais été accepté par la communauté scientifique. Le monsieur qui a développé ça a essayé de présenter à l'Académie des sciences en France plein de fois, il a été rejeté à chaque fois, mais c'est resté longtemps. Et beaucoup de gens ont essayé après de prendre des inspirations phrénologiques pour les faire entrer dans les neurosciences. Un neuroscientifique hyper connu qui s'appelle Paul Broca, qui a découvert une zone impliquée dans les circuits du langage, qui s'appelle aujourd'hui la zone de Broca, a été un grand raciste notoire pour qui essayait de prouver en fait la supériorité des blancs par rapport aux autres concentrations de mélanine dans la peau.
Un dernier mot sur la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on progresse de ce côté-là ? On connaît suffisamment
le cerveau pour... mais pas assez vite et pas assez, mais on a déjà beaucoup progressé sur les 20-25 dernières années. Je dirais que c'est un des domaines où on progresse le plus, mais sur les autres domaines, on progresse quasiment pas, donc ça reste pas assez.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Albert, c'est tellement de choses sur le cerveau, c'est difficile à croire qu'il y ait une autre personne.
Oui,
à suivre.
Difficile,
et pourtant, maintenant, il y a quelqu'un d'autre.
Je vous présente le docteur Ben Rain. Il a une trentaine d'années, il est américain et sur TikTok, il est connu sous le pseudo de Dr. Brain. Un jeu de mots avec son nom de famille et le mot brain, qui je le rappelle pour les moins anglophones, veut dire cerveau.
This new paper out of Stanford shows that the brain listens to the body to guide emotions. And it's pretty remarkable.
Dr Brain a donc fait du cerveau sa spécialité sur les réseaux. Toujours habillé de sa blouse blanche, il vulgarise tout ce qui touche à notre cerveau. Et ça plaît énormément puisqu'il a plus de 750 000 followers sur TikTok. En même temps, Ben Rain a toutes les qualités pour être un vulgarisateur parfait, car il est lui-même neuroscientifique formé à la prestigieuse université de Stanford. Sur son compte TikTok, il s'attaque donc à des centaines de sujets qui concernent le mécanisme de notre cerveau. L'une de ses spécialités est d'analyser les effets de certaines substances comme le rôle de la sérotonine avec la MDMA, en expliquant qu'elle booste notre empathie, ce qui explique une attitude beaucoup plus sociable auprès des consommateurs. Une attitude qui est suivie souvent par une redescente très difficile, potentiellement accompagnée d'un épisode dépressif. Débunker les neuromythes font aussi partie de son travail. Il parle notamment des idées erronées sur la méditation ou les régimes alimentaires spécifiques censés booster notre intelligence. Il a fait une vidéo vue des millions de fois aussi sur la mémoire photographique qui est très souvent mal comprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend souvent des exemples de la vie quotidienne pour parler du cerveau, des choses qui nous paraissent anodines et qui pourtant ont un impact sur nous. Par exemple, il explique comment des émotions synchronisées lors du visionnage de séries ou de films peuvent renforcer nos liens sociaux. Il explique que le fait de visionner la même chose en même temps et de réagir de la même façon montre une compatibilité des cerveaux. Je vous poserai la question après. Il encourage donc à faire des dates au cinéma. Moi qui pensais qu'être dans le noir devant un film, c'était juste pour pécho, eh ben non, apparemment, c'est bon pour notre cerveau. Comme quoi, on en apprend tous les jours.
Merci Manon. Albert Moukébé, il faut se méfier des réseaux sociaux en ce qui concerne les savoirs scientifiques.
Oui, j'ai l'impression. En fait... Le problème, quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir tout à l'heure, c'est-à-dire il faut aussi un peu faire preuve d'humilité. Par exemple, l'exemple qui a été donné avec le cinéma, c'est en fait la majorité, quasiment toutes nos études aujourd'hui en IRM, des choses comme ça, c'est des gens qui sont allongés dans une machine, dans un laboratoire, dans un hôpital. Et le cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans le cerveau quand on est en date ou quand on est en train de regarder un film. On a mis quelqu'un dans une IRM, on lui a montré un écran, on a vu quelques activations potentielles. Et après, on extrapole ça en mode, si vous voulez, pécho, essayez de mettre votre main droite dans votre oreille gauche et de taper à la...
C'est moi qui l'ai dit, ça, c'est pas lui.
Non, mais je sais, c'est pas juste... Il y a beaucoup de vulgarisation autour du cerveau, de faire de la dopamine, des tox et de booster votre sérotonine et d'entraîner votre neuroplasticité. Et c'est tout le temps un truc hyper individualiste et hyper réducteur sur l'individu et c'est pas bien de faire ça. Arrêtez de faire ça.
En écrivant le livre, vous avez pensé à être humble à cette humilité?
En fait, le livre se termine par « Je pense qu'on ne va pas comprendre le cerveau de mon vivant ». Donc, je pense pas que je peux...
Le maximum de l'humilité.
Je ne sais pas si
c'est humble.
C'est assez humble.
J'étais plus déprimé que humble, je pense.
Mathieu Noël sur France Inter.
Le miracle a eu lieu 12 ans maintenant que Kylian Courade, le cousin de Pierre, responsable remontée mécanique dans une célèbre station de ski des Pyrénées, l'attendait. Hier, il a neigé à la Montgy. Un miracle que Pierre s'est évidemment empressé de relayer dans le groupe WhatsApp de l'émission alors qu'on n'avait rien demandé, avec des photos. Ah, il neige dans les Pyrénées. Manon était à deux doigts d'annuler son séjour à Méribel. Mais non, quand même pas. Bonjour Pierre Courade.
Bah écoutez, je vais mettre les photos sur le compte Instagram de Zoom Zoom Zen.
Mais personne n'a demandé ça.
Non.
Oui, écoutez, il a même neigé à Cotteret, ce qui n'était pas arrivé depuis à peu près 10 ans.
On va perdre des followers. Pierre, on a déjà une minute chrono,
l'essentiel de ce qu'on s'est dit. Allez-y, Pierre.
Et aujourd'hui, on a évoqué les mythes qui entourent notre cerveau, les neuromythes décortiqués par le neuroscientifique Albert Moukébert, notre invité, le plus humain des antimythes, du coup. On n'utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau, c'est faux, même si ça aurait pu expliquer pourquoi on se retrouve avec un déficit budgétaire aussi important. Ce n'est pas du côté du cerveau qu'il faut chercher, ou pas seulement. Albert Moukébert nous a expliqué que cette légende sur notre cerveau ne vient de rien, ou d'une extrapolation journalistique, désolé. Les mémoires visuelles ou orales, c'est faux aussi, tout comme le cerveau reptilien ou la bosse des maths. En revanche, le café réduit la fatigue, c'est vrai, mais le café n'améliore pas en tant que tel nos capacités cérébrales. On est plus vif, pas plus intelligent. Pour notre invité, ces idées reçues, ce sont des croyances performatives. Elles peuvent entraîner des arnaques qui visent à nous soutirer de l'argent. Si on vous promet de passer de 10 à 15% des capacités de votre cerveau, vous savez maintenant qu'il ne faut pas vider votre compte Lydia. Arnaque aussi idéologique. Un gourou qui promet de modifier votre champ magnétique et énergétique cérébral. Pas la peine de le suivre tout de suite dans le Larzac. Les neuromythes, ça marche parce que ça joue sur le flou, comme les horoscopes. On ne sait pas tout de notre cerveau, scientifiquement. Les charlatans comblent ce vide. Pour tout le reste, lisez les publications d'Albert Moukébert ou réécoutez cette émission. Ce sera du temps de cerveau disponible, bien utilisé.
Merci beaucoup Pierre Courade. Et pour finir, elle revient parmi nous, Amélia. Amélia, vous avez fait un passage remarqué sur cette antenne dernièrement. Vous nous aviez lu quelques-uns de vos poèmes très noirs. Hein. On s'est dit que vous aviez peut-être besoin d'aide et on voulait vous présenter Albert Moukébert, qui est aussi psychologue clinicien.
Ah bah, ça m'intéresse. Oui, bah oui, je cherchais un bon psy. Le dernier, il avait 80 balais, il puait le tabac froid et des poils lui sortaient du nez et des crottes aussi. Il les mangeait en me faisant parler de mon père, mon petit papa avec qui j'aime bien dormir de temps en temps. Bon, bah, il y a quoi ? J'aime les hommes, voilà. Vous, d'ailleurs, monsieur Albert, vos cheveux sont très jolis, noirs de jais comme les plumes d'un corbeau. On a envie de passer la main dedans, d'en arracher un ou deux et de les conserver précieusement dans une mini-fiole suspendue à un collier entre mes nébats. Votre douce voix m'a même inspiré un poème. Albert, 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 quand tu parles de ta voix d'expert, les pigeons s'arrêtent de roucouler et se mettent à t'écouter. Les rats sortent des poubelles et tendent l'oreille. Même les chiens jamais n'aboient, pas de dresser, ils se retiennent de faire caca. Mathieu, j'espère que vous l'aviez prévenu que je suis une grande amatrice de Baudelaire.
Oui, oui, mais j'avais prévenu, mais surtout profiter de sa présence, je sais pas, pour lui demander des conseils sur le cerveau, peut-être.
Albert ! Mon cerveau me torture ! Je ne sais pas si c'est à cause de la forme de mon crâne en U ! Mais j'entends des voix. La première, c'est celle qui me dit que je suis une merde, que tous les autres sont mieux que moi. J'arrive pas à faire éditer mon recueil de poésie, Les Fleurs du Bad ! Alors que le titre est moderne ! Neuromania, pardon, ben c'est nul, hein. Heureusement qu'il y a votre photo sur la couverture du bouquin pour rattraper. Dommage que ce soit que le visage. Moi, j'ai essayé l'image de poster sur les réseaux sociaux, d'activer un peu la dopamine, la sérotonine chez les gens, mais je suis censurée. J'avais mis une photo de mon entrejambe. Bon, pas lavé depuis 3 semaines, c'est l'hiver. Moi, j'ai pas envie de me doucher. Et bah, pour booster la publication, mon poème, le fossé béant qui commençait par « Oh mon trou, mon orifice, ma faille, ma crevasse, ouvre-toi comme la caverne d'Ali Baba. » Et là, bim, visuel de ma touffe en illu. Et bah, pauvre, ça a sauté avec un message comme quoi je respectais pas les règles de la communauté Instagram. C'est pardon, fou. Mais quelle communauté pourrie ! Dans mon cercle des poètes jamais apparus, on s'envoie régulièrement des images d'inspi, on cache des objets rigolos dans nos organes génitaux et on se fait des devinettes. Albert, si vous saviez comment ça m'a foutu le cafard, cette histoire d'Instagram. Là, dans ma tête, c'était le neurone de la déception à droite, plus clignotant colère à gauche, plus transmission d'un sentiment d'injustice dans le cortex. Je suis allée hurler sur des enfants dans un parc, ça m'a un peu apaisée. J'ai besoin que vous m'aidiez. Comment on fait pour toucher le grand public quand, comme moi, on a un cerveau reptilien et qu'on est surdoué et sensible à la pollution atmosphérique, parce que d'avoir le gène du génie, ça m'isole aussi. Je vais plus vite que tout le monde à chaque fois au jeu des devinettes. C'est moi qui gagne. J'ai tout de suite reconnu que Guy, il s'était mis la dame du jeu d'échecs dans le film. Bah oui, mais c'est dans tous ses poèmes. Il est sa mère, Guitoun. Donc j'ai crié aux autres, mais vous êtes tous cons, bande d'incapables. C'est moi qui sais mieux que tout le monde. Je vous domine tous avec vos cerveaux paléo-néo-mammaliens molassons limbiques de moutons mal baisés. Vous utilisez 10%, moi j'ai accès à 100% de mes capacités, même plus 100 000. Mes connexions synaptiques là-haut sont tellement puissantes, je peux communiquer avec les morts. Si, si, je discute régulièrement avec ma grand-mère, Jacqueline. Parfois, c'est elle qui me donne l'inspiration pour mes poèmes. Elle répète en boucle les dernières paroles de son vivant. Ma couche est pleine. Ce sera le titre de mon prochain livre.
On a vraiment hâte, à mon avis, c'est celui-là que vous allez enfin toucher le grand public. Yes. Merci Amélia et Rosa Burstein. Évidemment, je rappelle que vous jouerez votre nouveau spectacle dédoublé au Théâtre de l'Œuvre en mars prochain, en tournée ensuite dans toute la France. Pour ceux qui cherchent encore leur cadeau de Noël, voilà une idée que je vous glisse comme ça, hein, au hasard. Pas du tout, et c'est suggéré par Rosa elle-même. Toutes les infos sur votre site internet. Merci Albert Moukébert de nous avoir permis de tordre le cou au Neuromythe. Je rappelle votre livre, encore une fois, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, paru aux éditions Alary. Zoom, zoom, zen.